écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Il est 10h18, comme on aurait aimé vous l'annoncer davantage, mais enfin on a fait comme on a pu et on est un peu pour le moment dans le royaume de la dérive, en présence de Richard Stallman, qui est à Bruxelles pour le moment, et de quelques autres invités pour un débat qui sera modéré par Jens, qui va vous présenter les différents intervenants.
Bonjour chers éditeurs Radio Campus, voilà on est réunis ici à Bruxelles avec Marco Cappato qui est député européen du parti radical transnational. Il y a Frédéric Couchet de la Free Software Foundation Europe, il y a Olivier Berger de l'association April qui fait aussi partie de la Free Software Foundation Europe en France. Et puis Richard Stallman qui représente donc la Free Software Foundation du départ aux États-Unis. Le débat qu'on va faire ici maintenant est un peu une prélude du débat, de la soirée débat qui aura lieu ce soir au Cinéma Nova. Donc ça se trouve rue Arenberg à 1000 Bruxelles. Et donc ça commence à 20h, l'entrée est libre, et donc le débat sera introduit à 18h, éventuellement de la projection d'un documentaire sur le logiciel libre, et puis suit un débat avec Richard Stallman, donc de la Free Software Foundation, de Makos, de ACT UP, et de Aris Papatheodorou, de Zamisdat.net. Voilà, peut-être on commencera avec Marco Cappato. Oui. Petite présentation de vos occupations.
Oui, alors moi je suis député européen et mon intérêt dans le sujet de c'est l'intérêt d'un législateur. Donc comment on peut faire de bonnes lois? Ou mieux, comment on peut éviter de faire de mauvaises lois, qui est ce qui est en train de se passer, vis-à-vis tout ce qui est Internet, nouvelles technologies, mais aussi le plus vaste sujet de la réglementation de ce qui est appelé copyright, brevet, etc. Alors, moi j'étais rapporteur aussi sur des autres questions relatives à Internet, qui sont la nouvelle directive sur la protection de la privacy dans les communications électroniques, et aussi sur le cybercrime. Donc comment réglementer les attaques contre les systèmes d'information. Et de façon très très générale, avant de aborder le débat, ce que je peux dire, c'est que le législateur se trouve dans une position très difficile de personnes qui ne comprennent pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Ils sont ils se sentent obligés à réglementer des choses qu'ils connaissent pas bien. Souvent, les groupes d'intérêt très spécifiques, par exemple les groupes d'intérêt industriels, sont ceux qui sont en train de briefer le député mieux que autres groupes, par exemple les utilisateurs. Donc on arrive dans des situations paradoxales où on a des lois qui servent un intérêt très très particulier, une réglementation très très spécifique de l'Internet avec des concepts qui sont vieux. Alors on traite du point de vue de la propriété, soi-disant propriété intellectuelle, parce que ça c'est la définition qu'on utilise, malheureusement, on traite l'Internet comme donc si j'en parlais des libres.
Donc alors, juste pour
et Richard Stallman, justement, il est en train de protester parce que même le mot, il le fait, disons, le disturbe, et il a raison, parce que on est en train d'appliquer des vieux concepts, des vieux systèmes, des vieux pratiques à un marché qui est tout à fait nouveau.
Donc peut-être qu'on peut demander donc à Richard Stallman, voilà peut-être d'abord pourquoi est-ce que vous êtes venu ici à Bruxelles pour l'instant? Donc exprimé par un groupe auprès de la communauté européenne pour faire un peu le contrepoint.
Oui, dans le Parlement, il y avait un événement hier contre les brevets informatiques où il y avait beaucoup de conférenciers et j'étais un. Et donc, c'était pour convaincre les parlementaire s'opposer au brevet informatique. Et il paraît que nous avons gagné à quelques points. Mais je dois expliquer pourquoi il ne faut jamais utiliser cette expression propriété intellectuelle. Parce que c'est pour deux raisons. Une raison, c'est parce qu'il y a bias, un préjugé dans cette expression. Dans chaque champ, il y a une question de base. Comment est-ce que nous devons traiter de ces choses? Comme un genre de propriété ou de quelque autre, d'autre manière? Et si l'on appelle le champ même le champ de propriété intellectuelle, cela préjuge cette question de base. Mais aussi, c'est une expression de confusion, parce que cette expression regroupe des champs de la loi qui n'ont rien en commun, y compris le droit d'auteur, les brevets, les marques et d'autres. Et n'importe quel deux de ces champs n'ont rien en commun. Essayez donc de comprendre tous ces champs ensemble amène directement à l'erreur, à la malcompréhension. Pas seulement des détails de la loi actuelle, mais aussi de toutes les questions des conséquences pour le public. Les questions de politique publique sont différentes selon les champs. Les implications, les questions du droit d'auteur n'ont rien en commun avec les questions des brevets. Donc, essayer de discuter les deux ensemble est nul. Mais cette expression encourage les gens à supposer qu'il y ait un principe général, qu'il n'y en a pas, de propriété intellectuelle, et que les droits d'auteur sont une expression de ce principe, que les brevets sont autre expression de ce principe, ce qui n'est pas vrai. Les deux champs de la loi ont des histoires complètement indépendantes. Donc, pour pouvoir comprendre soit les brevets, soit les droits d'auteur, il faut commencer par rejeter cette expression propriété intellectuelle.
Ok, mais est-ce que peut-être pour pas mal d'auditeurs, c'est peut-être pas très clair justement cette différence entre un brevet logiciel, quelque chose qui est relativement nouveau, qui vient d'être proposé et discuté ici en Europe au sein des États membres, et le concept qui prévalait jusqu'à présent, donc le simple copyright sur les logiciels. Donc quelle est la différence? Quel est l'avantage, par exemple, pour un éditeur de logiciels de désormais utiliser plutôt un brevet?
Ce n'est pas une question qui importe. Il faut ne pas regarder les brevets du point de vue des détenteurs des brevets, parce qu'ils sont très peu. Et pour la plupart, un éditeur de logiciels est la victime des brevets. Mais d'abord, je dois dire que les droits d'auteur et les brevets n'ont rien en commun. Pour comprendre les deux, il faut commencer par là. Un droit d'auteur s'applique aux détails d'une œuvre. Un brevet s'applique à une idée. C'est un monopole artificiel pour une idée.
Une invention, généralement.
Oui.
Une invention technique.
Ils sont appelés des inventions. Ils peuvent être vraiment des inventions ou pas. Mais en tout cas, ils sont des idées. Un brevet, c'est un monopole artificiel créé par le gouvernement sur l'utilisation d'une idée. Un droit d'auteur ne s'applique pas aux idées, jamais. C'est dans la loi que le droit d'auteur s'applique aux détails d'une œuvre spécifique et couvre le copiage de cette œuvre dans ses détails. Et la manière d'obtenir un droit d'auteur, c'est automatique. Mais pour un brevet, il y a un processus d'application jugé par un bureau de brevets. Officiellement, on dit que l'idée doit être nouveau et pas évident, mais ce n'est pas vrai dans la pratique.
Donc, quels sont les risques qui...
Le problème est, si vous écrivez un programme vous-même, le droit d'auteur appartient à vous. Mais vous devez utiliser des idées, vous devez combiner des idées, beaucoup d'idées. Dans un programme de traitement de texte actuel, on peut voir il y a peut-être des centaines d'idées. Et chaque idée peut être brevetée par quelqu'un dans un pays où les brevets informatiques existent, comme les États-Unis. Chaque idée peut être brevetée par quelqu'un. C'est impossible, pratiquement, de savoir quelles idées sont brevetées et quelles idées on peut librement utiliser. Mais avec le besoin de combiner beaucoup d'idées pour écrire un programme, presque tout éditeur de logiciel risque de recevoir un procès pour publier ou même pour utiliser le logiciel. Même les utilisateurs peuvent être victimes des procès. Pour ça, la supposition de ce que les éditeurs de logiciels auraient des bienfaits par des brevets informatiques. Pourquoi supposer comme ça? Parce que les éditeurs de logiciels normalement reçoivent des bienfaits des droits d'auteur. Si on suppose qu'il y a quelque chose en commun avec les droits d'auteur et les brevets, si on procède à penser à travers ce chemin faux de propriété intellectuelle, si quelque chose est vrai pour les droits d'auteur, on suppose que c'est la même chose pour les brevets. Mais normalement, il n'y a rien en commun entre les deux.
Donc généralement, la GPL, la General Public License, que vous avez développée, entre autres, elle s'appuie sur le copyright, c'est ça?
Oui, bien sûr. Et il n'y a rien de semblable pour les brevets, parce que les brevets n'ont rien en commun avec les droits d'auteur.
Et donc, quelque part, le brevet, si on commence à breveter le logiciel d'une manière...
Non, il ne s'agit pas de breveter le logiciel. Il y a le droit d'auteur pour un logiciel, mais il y a un brevet aux États-Unis pour une idée, pas pour un logiciel.
Donc, si je comprends bien, Richard, on peut penser à une fonction, par exemple, mettre de l'ordre dans mes files, ou les mettre en ordre alphabétique, ou les mettre...
Oui,
c'est exact. Et cette fonction pourrait être accompli avec des infinis logiciels, hein, parce que ils peuvent être des logiciels propriétaires, des logiciels libres, des simples, complexes, bons, mauvais, etc. Tous pour achever cette idée. Mais, donc il y a aussi une compétition, en théorie. Mais si l'idée même, par exemple, de archiver mes files en ordre alphabétique, ou les mettre en colonne, ou les mettre, chauffer le café à travers l'ordinateur. Toute fonction que nous pouvons penser. Si l'idée, la fonction est brevetée, alors là, on est tous bloqués. Et on sait même pas quelles sont les idées qui sont brevetées. Ça, c'est très important.
Alors, en principe, on peut savoir parce que les brevets sont publiés par le bureau de brevets, mais il y en a trop.
Ouais, et c'est très très complexe. Alors, une chose que, par exemple, moi, j'ai dit à la conférence de hier, et je dois dire à Richard, il faut pas être optimiste, parce que en connaissant le Parlement européen, quand on commence à discuter, c'est très bien l'idée, il faut pas breveter les idées, tout le monde est d'accord. Après, quand on va à voter, qu'il commence à recevoir les lettres, les pressions, etc., malheureusement, les jeux changent beaucoup. Mais, en tout cas, une chose que je crois que c'est très très important, c'est que les brevets, c'est une chose, c'est un concept qui est fait surtout, disons, pour les industries, pour les compagnies, et ça vaut pour les inventions du monde physique. Je fais l'invention de, je sais pas, de la lampe ou de la machine à vapeur. Ce sont des choses très complexes qui sont des idées très complexes. Alors, la différence avec les logiciels, je crois, c'est surtout le fait que ce n'est pas, les logiciels, c'est pas seulement une question des industries, des compagnies, c'est une chose aussi des individus, surtout avec le logiciel libre. Moi, je suis à la fois, si je sais un minimum comment on fait à écrire les programmes, je suis à la fois utilisateur, mais créateur aussi. Je peux ajouter un petit bout d'idée à une idée qui a été construit dans le temps par des milliers de programmateurs indépendants et individuels. Alors, imaginez-vous la complexité de, pour un individu, d'avoir le risque de faire une chose, de faire une opération, d'ajouter un bout de programme, d'idée, de réalisation d'une idée, qui est brevetée quelque part aux États-Unis ou quelque part au Japon ou quelque part en Europe.
Ou ici.
Avec des mécanismes régionaux de brevetage, avec le risque qu'une compagnie qui a l'argent pour payer une équipe d'avocats, une équipe de consultants, une équipe de personnes qui font exactement ça professionnellement. Ils font l'archive des brevets, le monitorage des brevets, l'échange de brevets entre compagnies. Alors, c'est un jeu très complexe, et l'individu, le programmateur libre individuel, se trouve écrasé dans ce jeu-là.
Oui, c'est exact. Il faut comprendre que il existe des brevets informatiques aux États-Unis, mais tant que vous restez ici en Europe, on ne peut pas vous attaquer avec un brevet américain. En Europe.
Oh, d'accord, mais on peut justement poser la question à Frédéric Couchet ou à Olivier Berger de la Free Software Foundation Europe. Je sais qu'il y a certains cas où il existe actuellement en Europe des brevets pour certaines technologies dans l'informatique. Donc, par exemple, des brevets qui empêchent, par exemple, de pouvoir utiliser la séparation en couleurs dans le logiciel de GIMP, par exemple. Donc, de GIMP, actuellement, ça sert pour faire des images RGB, ça marche très bien, mais certains procédés en séparation de couleurs ont très, très fort breveté. On a aussi quelques brevets qui pèsent au-dessus du MP3, par exemple, qui posent, par exemple, certains problèmes pour le projet Orgworbis. Peut-être vous pouvez un peu expliquer quels ont déjà les effets des brevets qui existent en Europe et qu'ils ont passé dans le passé.
Déjà, il faut bien comprendre que quand on dit que les brevets sur les idées n'existent pas, en tout cas sur les logiciels n'existent pas en Europe, c'est vrai dans la théorie. Mais dans la pratique, en fait, l'Office européen des brevets a accordé un certain nombre de brevets totalement stupides sur des idées de base, au mépris des règles de la Convention de Munich de 1973, par un mécanisme qui est très simple, en fait, c'est que l'Office européen des brevets a une cour d'appel interne qui modifie les règles de son propre fonctionnement. Ce qui permet, en fait, à ces gens-là qui sont en fait payés, il faut le rappeler quand même, qui sont payés sur les brevets déposés, c'est quand même une organisation internationale qui fait des bénéfices et qui fait des bénéfices sur son propre, je dirais, cœur de métier. Cette cour d'appel est interne et donc ne tient pas compte en fait des gouvernements. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils ont changé leur fonctionnement avec une cour d'appel interne au mépris des règles qui ont été imposées par les gouvernements et sans tenir compte des remarques que leur font les gouvernements, notamment français et allemands depuis des années, sur le fait qu'ils violent leurs propres règles. Donc dans la pratique, il y a déjà en Europe des dangers très importants pour les développeurs. Ce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que qui est pour les brevets logiciels en fait, en gros ? Ben, il y a deux types de personnes, c'est les grandes compagnies. Parce que comme l'a expliqué effectivement Marco Capato, c'est le seul qui peuvent créer des pools de brevets. Et puis c'est finalement les experts.
Mais quels intérêts ils ont à créer des brevets ?
Alors, ben, les intérêts qu'ils ont à créer des brevets, c'est que par exemple, si vous êtes une petite compagnie très innovante, et que vous désirez finalement créer un marché, vous implanter sur un marché, et vous avez l'idée de déposer un brevet, en vous disant je vais être protégé par ce brevet. Le problème, c'est que Un programme est constitué de milliers d'idées potentielles. Et potentiellement, chacune de ces idées peut être déjà brevetée par une autre compagnie. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez dans votre petit cartel votre petit brevet qui protège une partie simplement de votre idée, et vous avez des grandes compagnies qui ont des dizaines, des centaines, des milliers de brevets. Et le jeu, c'est simplement, si un jour vous venez concurrencer à une de ces grandes compagnies sur son marché avec votre petit brevet, qu'est-ce que va faire la compagnie ? Elle ne va pas vous dire votre brevet il est valide ou pas. Elle va vous dire, ok, il est peut-être valide, mais moi, sur cette partie de programme-là, j'ai ce brevet-là. Sur cette partie de ton programme, j'ai ce brevet. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, résultat, soit la compagnie est rachetée, soit la compagnie disparaît. Et les grandes compagnies entre elles, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles utilisent les brevets pour faire quoi ? Du cross-licensing. C'est-à-dire qu'elles échangent d'autorisation de brevets. Donc finalement, en fait, elles n'utilisent pas les brevets pour faire de l'innovation, mais simplement pour augmenter, en fait, leur monopole qui est déjà existant. Et tout à l'heure, quand Marco parlait, en fait, de la difficulté pour le législateur de comprendre les modifications qu'implique l'immatériel, le brevet, c'est l'exemple typique d'une entre guillemets une protection, parce que c'est pas une protection, mais de quelque chose qui a été inventé au 19e siècle pour de l'industrie et qu'on essaye d'appliquer à quelque chose qui est totalement immatériel. Et on essaye d'appliquer les mêmes règles, et c'est vrai dans d'autres cas d'ailleurs, hein, on essaye d'appliquer les mêmes règles du matériel de l'industrie à un domaine qui est totalement différent. Et c'est ça qui est difficile pour le public à comprendre, c'est qu'il y a vraiment des différences profondes entre le matériel et l'immatériel, et il y a un saut qualitatif à faire.
Donc quelque part, vous dites là que le brevet, ça date d'une autre époque et c'est un procédé de protection qui devient quelque part dérisoire aujourd'hui.
Pas forcément dérisoire, il y a peut-être des domaines où le brevet est important.
Lesquels ?
On peut peut-être imaginer que pour les industries lourdes, effectivement, où il y a des investissements très importants, ça peut exister, ça peut être
par
correct.
Par exemple, l'industrie pharmaceutique. On sait là aussi qu'il y a certaines...
Il y a beaucoup de débats. Moi, je ne suis pas un expert dans l'industrie pharmaceutique. Effectivement, ce soir, je vais aller à la conférence parce que je sais que Emma Kos va en parler. J'écoute leurs arguments. Effectivement, il semble qu'il y ait des gens qui disent que même dans ce domaine-là, les brevets ne sont pas forcément quelque chose de valide. Ce que je sais, c'est que dans le domaine informatique, dans le domaine des logiciels, c'est quelque chose qui est néfaste. D'ailleurs, et hier, vous le disiez, Marco le disait, quand on veut changer une loi... La charge de la preuve appartient à qui ? Elle appartient à ceux qui veulent changer la loi, qui disent que cette loi, en modifiant les règles du jeu, ça va faire progresser qui ? Les utilisateurs, les entreprises et l'intérêt général. Or, depuis 1997 que le livre vert sur le brevet logiciel a été publié, il n'y a pas une étude qui a été avancée par les pro-brevets logiciels en faveur des brevets logiciels. Il n'y en a pas une seule. Toutes les études qui ont été commandées, même celles qui ont été commandées par la direction générale du marché intérieur, ont montré qu'il n'y avait pas d'effet positif avec cette loi et qu'éventuellement même, il y aurait plutôt des effets négatifs. Donc moi, je dis, on a un statut qui est le droit d'auteur qui permet à des entreprises, par la concurrence, par éventuellement le secret industriel, les gens peuvent choisir effectivement de faire du propriétaire, le secret industriel permet effectivement l'innovation, et par la concurrence, ça permet à l'industrie européenne et même américaine, il faut se souvenir quand même que Microsoft a explosé en dehors de tout système de brevets. Donc ce système fonctionne, il permet à tout le monde d'être plus ou moins content, donc avant d'en changer, faites-nous la preuve que tout le monde va y profiter, en tenant compte bien entendu du triptyque, créateur, utilisateur et intérêt général. Or aujourd'hui, la preuve n'est pas apportée.
Olivier Berger, quelle est la situation actuelle ici en Europe quand on regarde l'avancée des personnes qui soutiennent le brevet logiciel ?
Bien évidemment, il faut chercher à qui profite le crime dans ce genre d'histoire. Ceux qui font la promotion du brevet logiciel, c'est pas compliqué, c'est les gens qui gagnent de l'argent avec le brevet logiciel, donc c'est les offices de brevets. Donc par exemple en France c'est l'INPI, c'est l'Office européen des brevets, et donc ces gens-là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, gagnent de l'argent chaque fois qu'ils enregistrent des brevets. Donc évidemment dans un système comme ça, ils n'ont aucun intérêt à refuser les brevets et à passer longtemps à examiner les brevets pour vérifier si c'est pas un brevet stupide ou si c'est pas quelque chose qui existe déjà ou sur lequel il y a un état de l'art antérieur. Donc, et comme le disait Frédéric, je crois, c'est des organismes qui sont assez indépendants, c'est un domaine très technique sur lequel le grand public comprend pas grand-chose parce qu'effectivement il fait des assimilations et puis on lui sert une certaine propagande comme le terme propriété intellectuelle qui englobe tout et rien. C'est des choses que les gens disent, ah oui, ça concerne les entreprises, donc on va laisser un peu les entreprises s'en occuper. Et quand on regarde dans les grandes entreprises, même parfois, il y a des choses étonnantes. Par exemple, on m'a raconté que dans une réunion à Bruxelles pour conseiller un petit peu les décideurs politiques, la société Nokia était représentée et puis disait, ben, nous nous, oui, on veut des brevets logiciels. Alors ok, Nokia, c'est un acteur fort dans l'industrie européenne, dans les téléphones mobiles, etc. Et c'est vrai que si eux, ils disent ça, on peut dire, oui, c'est des emplois à la clé. Et le problème, c'est que la personne qui disait ça au nom de Nokia, c'était le directeur de la valorisation industrielle ou quelque chose comme ça, donc qui s'occupait des brevets de Nokia. Et en fait, ce gars-là, il parlait en son nom, il parlait au nom de son groupe au sein de Nokia. Mais si on avait posé la question à ceux qui font les logiciels de Nokia, c'est-à-dire la société Opera qui fait le navigateur web des téléphones mobiles de Nokia, lui il dit non, on veut pas de brevet. Donc on voit bien que le gars, l'informaticien qui fait les programmes pour Nokia, il dit non, je veux pas de brevet, mais le chef de Nokia qui lui a peut-être des brevets sur d'autres secteurs ou qui gagne de toute façon de l'argent et qui est issu du même cercle des conseils en propriété industrielle, il a tout intérêt à promouvoir le brevet. Donc le jeu est vraiment faussé là.
D'accord, là vous parlez des grandes sociétés qui revendiquent justement les brevets sur les logiciels, mais il y a également les universités qui commencent ou qui commençaient déjà dans le passé d'abuser du brevet pour leur recherche et donc même de ces côtés-là on entend des voix qui disent que le brevet est quelque chose de bénéfique.
Oui, ben là il y a un certain fantasme qui maintenant commence à changer, j'ai l'impression, parce que moi je travaille dans une école d'ingénieurs en France, donc je vois ça au quotidien. C'est vrai qu'on est relativement incité, et puis c'est bon pour la carrière des universitaires, quand ils arrivent à déposer des brevets sur des découvertes. Et donc, ça, c'est bien, comme faire une publication, déposer des brevets, c'est très bien pour la carrière. En fait, les universités se rendent compte aussi maintenant qu'il y a des moyens beaucoup plus intéressants de faire de la valorisation des résultats de la recherche. Notamment un moyen qui est faire du logiciel libre, dans le domaine du brevet logiciel, justement. En fait, il y a un fantasme qui est assez courant. L'idée formidable, l'idée géniale qui va me faire gagner plein d'argent, je vais pouvoir faire ma start-up, donc si j'ai un brevet sur cette idée, ça va m'aider à trouver des capitaux, etc. Mais ça marche quand on est dans la nouvelle économie qui explose avec du financement partout. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, il suffisait pas d'avoir des idées pour arriver à faire des produits sur le marché. En fait, ce qu'il faut, c'est être bon. Il faut savoir vendre. Il faut avoir des clients. Il faut qu'il y ait un vrai business model. Et donc tout ça, c'est beaucoup plus dur que de simplement aller dépenser 30 000 euros pour déposer un brevet ou quelque chose comme ça. Et puis en plus, comme on le disait, la petite start-up qui se crée avec un seul brevet, elle vaut rien. Parce qu'en face, il y a une grosse boîte qui est intéressée par son marché et qui veut la racheter et qui, elle, en face, a 100 brevets. C'est sans contraint et donc on sait très bien qui c'est qui va gagner. Donc en fait les gens avaient ce fantasme là de pouvoir trouver l'idée géniale et le brevet génial, mais en fait on se rend compte qu'il y a d'autres moyens. Et par exemple le fait de quand on s'intéresse au logiciel, de faire du logiciel libre, ça va permettre de créer beaucoup plus facilement plein de petites start-up qui vont utiliser cette technologie logicielle pour vendre des produits à leurs clients, pour contribuer à l'amélioration de ce logiciel. Et c'est beaucoup plus intéressant, de façon globale, pour la valorisation des travaux de la recherche, que de faire un brevet qu'on concède à une seule start-up avec un monopole. Parce que le brevet, c'est toujours ça le problème, c'est que c'est peut-être intéressant pour celui qui a le monopole, mais c'est pas intéressant pour le reste des gens à qui on ampute d'une certaine liberté. Donc le législateur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Effectivement, il doit regarder quel est le contrat social, quel est l'équilibre, est-ce que c'est bon pour les individus au sens large, ou pour les individus au sens intérêt particulier. Est-ce que c'est bon pour les compagnies au sens particulier ou pour l'ensemble des autres compagnies? Et dans le cadre du droit d'auteur, du copyright, on trouve qu'il y a un certain équilibre qui est favorable à tout le monde, qui est favorable à la fois aux gens qui font du logiciel libre, aux gens qui font du logiciel propriétaire, aux utilisateurs finaux qui passent contrat avec des sociétés de services pour leur développer leur logiciel, que la balance penche du bon côté. Et effectivement, alors pour ce qui concerne l'Europe, c'est très clair, parce que les Américains ont déjà, ils ont mis ça en œuvre depuis longtemps, ils ont la puissance sur les marchés parce qu'ils ont la puissance économique, ils ont la puissance technologique parce qu'ils ont quand même les éditeurs comme Microsoft, comme Sun, ils ont les opérateurs de réseau comme Cisco, et en fait, si l'Europe ne résiste pas et ne garde pas cette protection du copyright et du droit d'auteur sans changer la règle sur son marché, elle va se faire manger par les Américains. C'est évident. Enfin, c'est ce que nous, il nous semble évident. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut aller vers le brevet pour faire comme les Américains. Non, il faut que nous, on affirme qu'on ne veut pas de brevet et qu'on montre l'exemple aux Américains.
Richard, you told us that there are already software patents practiced in the United States. Can you explain us? I think there are already some some cases where this has been happening. Can you explain some of the consequences of this?
Les conséquences des brevets informatiques
aux États-Unis.
Oui. Il y avait des des entreprises écrasées par des brevets des concurrents. Il y avait beaucoup de programmes libres qui ne sont plus disponibles aux États-Unis ou qui n'ont pas des fonctions importantes. Il y a des fonctions importantes qui manquent dans ces programmes parce que les fonctions sont brevetées. Le champ entier de cryptage à clé publique était inaccessible à presque tout le monde à cause d'un brevet. Il y avait un produit ou deux produits autorisés et d'autres, les autres étaient interdits, y compris le logiciel libre, mais pas seulement le logiciel libre, qui a été bloqué. Pendant peut-être 10 ans que les gens ont essayé vraiment de faire ce programme, il a été régulièrement bloqué ou écrasé.
On voit qu'il y a, par exemple,
il y a des standards inutilisables. Les deux formats d'image utilisés surtout sur le réseau sont GIF et JPEG. Et les deux sont brevetés indépendamment. Les brevets sur une portion de l'idée du format GIF sont connus depuis beaucoup d'années. Il y a 10 ans, nous avons proposé un autre format qui s'appelle PNG, pour PNG n'est pas GIF, comme remplacement. Parce que la portion de l'idée de GIF qui est brevetée, c'est la méthode de compression des données. Donc avec un autre algorithme de compression, nous avons le format PNG. Mais dans 10 ans, le monde n'a pas changé de GIF à PNG. Dans cette année même, une entreprise a annoncé qu'elle a un brevet sur l'autre format, JPEG. Et il y a quelques mois, l'organisation qui a publié le standard JPEG a retiré ce standard officiellement parce que cette organisation a une règle de ce que ces standards doivent être utilisables par tout le monde et ce n'était plus vrai. Mais retirer officiellement un standard ne change pas le fait que tous les sites web utilisent les JPEG. Et comment le remplacer avec quoi? Donc, voici les deux standards principaux dans un champ sont tous les deux brevetés. Pour, dans les champs assez proches de vidéo, le standard officiel MPEG-4 est couvert aux États-Unis par 39 brevets.
Il y a deux brevets qui se sont libérés. Il y a RSA, il y a LZW qui...
LZW, non.
Bientôt.
Quoi?
Bientôt.
Ah, bientôt, oui. Parce que ce brevet va terminer dans un an.
Et à ce moment-là, ça fait partie du domaine public, donc il n'y a plus aucune protection.
Le domaine public ne s'applique pas aux brevets. C'est une expression pour les droits d'auteur. Oui, mais le problème de GIF terminera dans un an. Mais il faut voir que nous avons vécu sous ce problème pour 10 ans.
Et,
interdit de publier des programmes qui utilisent ce format très important.
D'accord, mais nos auditeurs, par exemple, qui utilisent la plupart du temps, je suppose, les systèmes commerciaux, des systèmes d'exploitation commerciaux ont pu utiliser ces formats sans le moindre problème. Donc,
Non, ce n'est pas toujours vrai.
Donc, expliquez un peu.
Ce n'est pas toujours vrai.
Oui.
Cela dépend de quel programme ils utilisent. Si vous avez une image de format GIF, est-ce que vous savez d'où vient cette image et avec quel programme l'image a été créée? Si vous ne savez pas, si c'est autorisé ou pas l'utilisation de cette image, de ce fichier. Donc, il y a deux entreprises qui détiennent des brevets presque équivalents sur cet algorithme de compression. Et qui sait quel brevet vraiment est valable? C'est une indication de la
stupidité
du bureau de brevets aux États-Unis d'avoir publié deux brevets pour la même idée. Mais en tout cas, ni l'un ni l'autre attaque les individus, mais les entreprises, si. Donc, si vous êtes une entreprise et vous publiez des images de format GIF, vous pouvez être attaqué.
Et généralement, si on regarde un peu les initiatives aussi des lobbyistes auprès de la communauté européenne qui font du forcing pour obtenir un peu une situation comparable que celle qui règne aux États-Unis au niveau légal, est-ce que si jamais, donc on pourrait imaginer, donc pour se faire un peu l'avocat du diable, il n'y aura pas de brevet sur l'invention logicielle en Europe, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de compétition décalée, donc
oui,
en désavantage.
Ce serait un avantage pour les Européens.
Et les États-Unis?
Aux États-Unis, les Américains peuvent être attaqués par n'importe qui dans le monde avec des brevets américains. Dans le monde peut faire une application au bureau de brevets américain pour obtenir un brevet américain sur une idée de l'informatique et attaquer les entreprises et les individus américains. Mais les entreprises et les individus européens ne peuvent pas être attaqués chez lui. Bien sûr, ceux qui essaient de distribuer du logiciel aux États-Unis peuvent être attaqués par les brevets informatiques américains. Mais tant que vous restez chez vous, et tant qu'il n'y a pas de brevet informatique vraiment valable en Europe, vous êtes... immunisé en Europe. Pas vraiment, peut-être immunisé n'est pas, je ne sais pas si c'est correct, parce que il ne faut pas une action explicite pour vous immuniser, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque en Europe. Donc, c'est une concurrence décalée parce que les Européens peuvent attaquer les Américains chez lui, mais pas le contraire.
Et donc, des cas comme la personne qui a travaillé sur un logiciel d'Adobe, par exemple, un russe, qui s'est rendu aux États-Unis lors d'une conférence.
Cela n'a rien à voir avec les brevets.
Non, mais ça va avec un décalage de la législation qui permettait
c'est
de
une
mettre
injustice,
sur...
Mais c'est une autre injustice qui mérite sa discussion peut-être un autre jour. Mais il faut ne pas mélanger les deux sujets parce que cela, c'est le chemin à la malcompréhension.
D'accord. Et c'est pas, il ne s'agit pas d'un mélange, mais de voir comment la législation peut être décalée dans deux contrées, donc les États-Unis
oui,
et l'Europe.
Oui, mais il faut faire attention surtout à pas le décalage, mais à les avantages et désavantages de la législation de tel ou tel pays. Parce que le but n'est pas seulement d'avoir la même loi dans tous les pays, mais d'avoir les bonnes lois dans tous les pays. ceux qui désirent imposer les brevets informatiques en Europe proposent toujours l'idée d'harmoniser les lois européennes avec les lois américaines. Mais pourquoi avoir des mauvaises lois en Europe? Parce qu'il y a des mauvaises lois aux États-Unis? On veut imiter les États-Unis de manière idiote?
Donc je crois qu'il y a le...
Il y a le flash de 11h qui arrive bientôt, donc on va faire une petite pause et on se retrouve après le flash.
Oui, voilà, de retour après cette petite pause. Richard, qu'est-ce qu'est le logiciel libre? Donc les gens qui nous écoutent ont déjà entendu dans la première partie le terme logiciel libre, mais ils se demandent ce que c'est.
Logiciel libre veut dire que les utilisateurs sont libres. Libres de regarder ce que fait vraiment le programme ou d'engager quelque chose d'autre à le faire pour eux. Libre à faire des changements, des améliorations pour faire que le programme fasse ses besoins ou d'engager quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre à le faire pour eux. Libre de diffuser des copies du programme et libre de publier des versions améliorées, modifiées du programme. C'est comme les gens qui cuisinent font avec les recettes de cuisine. C'est normal de compartir des recettes avec ses amis et aussi de faire des changements dans une recette. On n'est pas obligé d'utiliser la recette telle qu'elle, exactement sans changement. Et si vous avez changé une recette et si vos amis aiment bien manger le plat, peut-être un ami vous demanderait de lui donner une copie de la recette. Et vous pouvez écrire votre version de la recette pour lui. Comme ça, les cuisiniers font avec les recettes exactement la même chose. Et ce n'est pas par hasard, parce que les programmes et les recettes de cuisine ont quelque chose en commun. Tous les deux sont des œuvres fonctionnelles destinées à servir un but pratique, des étapes à franchir pour arriver à un but. Et comme ça, c'est utile de les changer, c'est très utile de regarder ce que fait vraiment la recette ou le programme. C'est utile de les partager avec les amis. Comme ça, interdire ce partage, c'est injuste et immoral. C'est l'interdiction de la coopération parmi les gens. Ce que n'importe quelle société peut supporter.
Donc Olivier, pour trouver un logiciel libre pour s'en procurer, pour pouvoir l'installer sur son ordinateur, qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'on trouve ça ici en Europe?
Ça dépend. Si on a accès à Internet, on peut très bien en trouver sur Internet. Donc ça, c'est la solution la plus courante. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les logiciels libres se sont popularisés. Mais il y a une autre solution, c'est d'aller en acheter à la Fnac, par exemple. On va trouver des boîtes. Alors il y a plusieurs marques qui vendent du logiciel libre. C'est par exemple Mandrake, qui est une boîte française, ou c'est Red Hat, qui est une boîte américaine. Donc donc c'est un package qui va contenir un CD-ROM, un manuel, et puis peut-être une offre de garantie, par exemple, pour avoir du support par email si on a des problèmes pour l'installer ou pour l'utiliser. Donc il y a plein de façons, et puis la façon la plus courante aussi, c'est d'avoir un pote qui l'a installé sur son ordinateur, puis il vous file le CD, puis vous l'installez aussi. Alors c'est un truc que les gens ont parfois eu l'habitude de faire aussi avec Windows, avec Photoshop, qui sont pas des logiciels libres. Parce que c'est naturel. En fait, on se rend compte que les gens, quand ils ont un programme, ils veulent le passer aux autres. C'est comme la recette de cuisine, c'est comme ce que disait Richard. Et donc c'est aussi par le bouche à oreille, comme ça, que ça va se diffuser.
Donc il y a aussi pas mal de logiciels GNU qui marchent sous Windows, c'est ça?
Oui, c'est vrai, mais pour avoir la liberté, il faut effacer la copie de Windows dans l'ordinateur. Il faut le remplacer avec un système d'exploitation libre comme le système GNU avec Linux.
Est-ce que c'est vrai que tu collabores depuis un moment avec le système Debian GNU Linux, qui est un logiciel tout à fait développé par une communauté?
La Fondation pour le logiciel libre a donné de l'argent pour le commencement de Debian il y a plusieurs années maintenant. Maintenant, les deux sont indépendants, mais il y a des rapports assez bons entre les deux.
Et donc, Frédéric, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu Debian GNU Linux. Ça ne fonctionne pas avec la FNAC, on ne peut pas aller à la FNAC pour l'acheter, c'est ça?
Je ne crois pas qu'à la FNAC, effectivement, ce soit disponible. La spécificité de cette distribution, c'est, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une distribution? Ce qu'on appelle une distribution, c'est l'ensemble des logiciels qui permettent de répondre à tous les besoins de l'utilisateur, donc que ce soit de jouer, de faire de la bureautique, de la connexion Internet, et un système de gestion des packages, qui sont très très évolués sur les systèmes libres. La spécificité de Debian, c'est que c'est la seule distribution qui est faite exclusivement par des bénévoles, des volontaires sur Internet. Je crois qu'actuellement, ils sont 1000 développeurs. Donc, comme l'a dit Olivier, on peut très bien télécharger sur Internet la distribution d'installer sur sa machine. Mais il y a aussi des sites de vente par correspondance. Par exemple, il y a Icarios, qui est un site où on peut télécharger, récupérer un CD qui va être envoyé par la poste. Et je crois que ça coûte une dizaine ou une vingtaine de francs français. Enfin, ou à quelques euros, quoi. Et vraiment, la spécificité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Et ce qui montre d'ailleurs la dynamique, en fait, et la pluralité du logiciel libre, c'est que d'un côté, on a des distributions qui sont faites par des sociétés, donc Mandrake en France, Red Hat aux États-Unis, et puis on a aussi des distributions qui sont faites exclusivement par des bénévoles. Et finalement, l'utilisateur s'y retrouve parce que chacune des distributions a peut-être des spécificités pour certains types d'utilisateurs. On dit souvent d'ailleurs que Mandrake est une distribution qui est beaucoup plus facile d'accès. Par exemple, aujourd'hui, il est très facile d'installer une Mandrake, que Debian est un peu plus difficile à installer, mais que par contre, en termes d'administration, oui, plus doucement.
Quand tu as l'occasion de me permettre, j'ai quelque chose à dire.
D'accord. Et en termes d'administration, par contre, Debian est beaucoup plus facile à administrer, donc pour les informaticiens, c'est un bonheur. En fait, on a vraiment une pluralité de logiciels, à la fois pour les purs développeurs et pour les utilisateurs. Et je dirais qu'en 2-3 ans, notamment, et sur les 2-3 dernières années, les logiciels libres ont fait un effort considérable sur tout ce qui est interface utilisateur. Aujourd'hui, on constate que des gens qui ne sont pas du tout informaticiens, soit qui ne connaissaient pas l'informatique, soit qui étaient habitués à des systèmes propriétaires, s'y retrouvent très facilement dans le logiciel libre et considèrent qu'en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus performant, c'est beaucoup plus accessible que la plupart des systèmes propriétaires. Même, par exemple, les Mac. Les gens qui sont pro-Mac s'y retrouvent beaucoup dans le logiciel libre.
Oui, Richard. Je voudrais dire que dans les versions de GNU avec Linux, de Mandrake et Red Hat, il y a des programmes propriétaires aussi. Oui. C'est très, très triste. On ne peut pas utiliser ces versions comme système libre sans savoir quels programmes ne sont pas libres. Donc c'est plus facile d'installer un système libre avec Debian. Parce que avec le système officiel de Debian, GNU/Linux, on peut être sûr de ce que tous les programmes soient libres.
Et j'ai aussi entendu que justement Debian a un sous-projet qui s'occupe du kernel Herd.
Oui, le Herd, c'est le noyau que nous avons commencé avant Linux, mais le développement a duré très longtemps. Donc c'était fortuné que Linus Torvalds a écrit son noyau pour parce que c'était comme ça que nous avons et nous avions pendant les années un système complètement libre. Mais nous n'avons pas terminé le développement de notre noyau qui maintenant fonctionne. On peut avoir un système GNU avec le Herd en lieu de Linux comme noyau. Le mot anglais herd veut dire troupeau. Parce que les gnous en Afrique vivent dans les troupeaux.
Marco, au niveau de... Vous avez aussi une expérience avec des systèmes Linux, personnellement ?
Non.
Il n'y a pas de système Linux.
GNU Linux.
C'est GNU.
GNU Linux. Ou GNU Heart.
Non, mais par exemple, je raconte toujours cette petite histoire avec Richard. Au Parlement européen, on est fourni avec Windows. Et naturellement, pour quelqu'un qui n'est pas expert, je crois que ça vaut un peu pour 90% ou peut-être plus des gens qui nous écoutent. Pour quelqu'un qui n'est pas expert, on prend ce qu'on trouve et peut-être on réfléchit pas assez aux conséquences aussi. Donc, moi, en ayant une dotation par le Parlement européen, ce système, c'est le seul système que je connais à la fin. Donc je sais politiquement qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'essaye de, en tant que législateur, de diminuer les dégâts le plus possible. Mais, par exemple, une fois j'ai envoyé un file attached en Word à Richard. Et donc je déconseille de faire ça à tous les écouteurs de notre radio. Et il m'a répondu justement que c'est pas son problème, c'est le problème que en faisant comme ça, tu vas obliger l'imposition d'un standard, parce que après, bon, les gens, si on échange de files propriétaires, on oblige ceux qui reçoivent à avoir ce système pour pouvoir les lire. Donc c'est une imposition de facto d'un standard. Voilà. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire politiquement.
Donc pour résumer, actuellement, dans les bureaux de la communauté européenne, on utilise un software américain qui n'est pas ouvert et qui pouvait éventuellement disposer des backdoors qui pouvaient représenter... Oui. Un problème au niveau de la confidentialité et peut-être aussi au niveau de la sécurité.
Oui. La réponse est oui. Alors moi, si je veux parler un moment de, disons, de l'aspect législatif de toute cette question Internet, moi je pense que ce n'est pas aux politiques de choisir entre software propriétaire et software libre. Ce n'est pas à l'État à promouvoir une chose ou l'autre.
Pourquoi pas? La liberté est quelque chose à promouvoir par l'État.
Je vais expliquer. Je crois que ce qu'on doit faire, nous, en tant que... ou ce que l'État doit faire, c'est de garantir des conditions correctes, équivalentes, disons, de mettre tout le monde sous le même plan. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, si il y avait vraiment une liberté de choisir, disons une liberté de marché, alors simplement le discours, ça serait, j'ai d'un côté un produit qui peut être gratuit ou à un prix très très bas, avec un réseau de gens qui peuvent collaborer à développer ce produit. De l'autre côté, j'ai un produit propriétaire qui me fait payer... qui me fait payer ou qui me fait payer plus et qui, de l'autre côté, me propose des services à côté. Alors, c'est à moi de choisir. Alors, le problème, c'est que ça va jusqu'à quand le choix est libre. Ça ne va plus jusqu'à quand il y a l'imposition de standards. Comme tu dis, ça soulève des problèmes de privacy et de sécurité. Alors, le problème pour l'État, ça arrive quand il y a des fonctions, disons, des fonctions publiques. Alors là, l'intérêt général doit être protégé. Par exemple, comme Parti radical, nous, on est beaucoup en faveur de la promotion de l'e-démocratie et de l'utilisation de l'Internet pour renforcer les droits civils et politiques. L'accès aux documents, l'accès aux réunions, même l'interaction, la signature, par exemple en Italie on a le référendum, les propositions de loi populaire, etc. Ça devrait être fait même par Internet. Mais tout ça doit être fait sur des garanties de contrôle public. Alors, pour avoir ces garanties, on ne peut pas consentir que ça soit fait par une entreprise dont on ne connaît pas, comme justement tu disais, s'il y a des backdoors, s'il y a une façon cachée de savoir ce que je fais, quelle pétition j'ai signée, qui je suis et quelle pétition j'ai signée, qui j'ai voté, par exemple, dans le cas de votation interne. Alors, dans ce cas-là, je crois que c'est important pour l'État d'intervenir et de garantir que le code du système avec lequel cette opération d'accès aux droits civils et politiques soit des codes contrôlables de façon publique. Alors là, je crois que c'est important. Alors pour le reste, le choix, je ne crois pas que, Richard, ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que l'État devrait imposer l'utilisation.
Non, mais c'est l'État qui impose maintenant.
Voilà.
Qui impose maintenant le fait de ce qu'un programme peut être propriétaire, que le seigneur féodal de ce programme, voilà, peut dominer les utilisateurs, peut les ôter les droits de regarder ce que fait le programme,
voilà.
Changer le programme.
Mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc,
non, c'est le contraire de ce que vous venez de dire.
Non, moi je
parce
dis...
Parce que je dis que un programme propriétaire et un système antisocial, un essai d'attirer les gens à céder leurs droits, et que l'État aide beaucoup dans cette tentation, parce que c'est l'État qui établit le système des contrats et des droits d'auteur que les seigneurs utilisent pour nier aux gens les libertés fondamentales des utilisateurs logiciels. Et aussi, c'est l'État qui interdit le reverse engineering pour pouvoir comprendre ce que c'est le format de fichier de Word, pour pouvoir écrire d'autres programmes capables de lire tous les fichiers de Word, ce qui est très difficile parce que ce format est secret. Mais c'est l'État qui nous empêche d'utiliser les moyens possibles pour comprendre ce format. Ces moyens sont très durs, mais en principe possibles, mais interdits par des États.
Plus qu'interdit, c'est criminalisé, c'est sur le droit pénal. Mais peut-être on n'est pas d'accord, et je veux pas. Mais moi, je crois qu'on est d'accord dans ce sens. Moi, je veux dire que l'État ne doit pas s'occuper, pour moi, d'incentiver un système plutôt que l'autre. Il doit s'occuper de ne pas favoriser, comme elle est la situation actuelle, les systèmes propriétaires.
L'État doit favoriser le système qui garde les libertés des gens et opposer le logiciel propriétaire qui ôte les libertés aux utilisateurs.
Mais par exemple,
c'est un système immoral.
Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire d'interdire le logiciel propriétaire?
Peut-être même décourager jusqu'au point où il se disparaisse.
Concrètement, du point de vue...
Je n'ai pas de proposition concrète à offrir, mais je trouve que les États ne doivent pas être neutres parmi les systèmes sociaux qui respectent les libertés des gens et les systèmes qui ne les respectent pas.
Oui.
Ce n'est pas l'occasion d'être neutre.
Moi, j'ai la conviction, peut-être c'est trop optimiste, que si les conditions sont vraiment, correctes, si on part, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, alors ça sera dans l'instinct des gens de choisir le système qui respecte le plus leur propre liberté.
Mais il y a déjà une chose minimale à faire pour arriver à ça, c'est que l'un des problèmes, par exemple, de Word, en dehors du fait qu'il soit propriétaire, il y a un deuxième problème que vous avez soulevé, c'est que son format de données est secret. Donc, les gens, en fait, quand ils communiquent des fichiers doc, obligent de façon irrémédiable les autres personnes à utiliser le système propriétaire Word pour lire ce fichier-là. Donc, le minimum des choses qu'on pourrait faire et qu'on pourrait demander aux législateurs, c'est d'imposer que les logiciels qui sont utilisés, qu'ils soient libres ou propriétaires, utilisent tous des formats de données, des formats de communication ouverts. Par exemple, on pourrait imposer qu'on refuse l'utilisation de Word dans les administrations et même ailleurs, si Word ne passe pas à un format de données ouvert, qui soit documenté, librement accessible, permettant après à chacun effectivement d'avoir le choix de lire le fichier avec Word ou avec un autre logiciel. Et en plus, ça réglerait le problème qui est quand même fondamental, qui est qu'aujourd'hui, on va dire 99% de la documentation publique, c'est-à-dire produite par les administrations pour le public ou par le public, est sous un format de document qui n'est non documenté, qui appartient à une firme américaine et qui n'est pas supportée dans les versions futures. Aujourd'hui, la plupart de ces documents pourraient demain disparaître tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que sera la prochaine version de Word. On ne sait pas si Microsoft va supporter les versions antérieures et jusqu'à quelle version. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de documents, par exemple des documents de Word 2, qui sont peut-être perdus parce qu'ils ne sont pas supportés par la nouvelle version de Word. Donc je dirais que le minimum à faire serait d'imposer l'utilisation de ces formats ouverts avant effectivement de passer à l'étape dont parle Richard.
Et là, il y a des propositions de loi dans différents pays, donc dans le monde entier, qui vont dans ce sens-là. Et on peut noter que, alors c'est dommage, Nicolas Pétiot, qui aurait pu nous en donner plus de détails, n'a pas pu venir à cause d'une extinction de voix, mais il y a un projet donc sur Bruxelles, sur la région capitale, si j'ai bien compris, pour effectivement imposer dans l'administration l'utilisation des standards ouverts et des logiciels libres. Donc là, c'est vrai que même si l'État, même si la Commission ne veut pas imposer, prendre un parti aussi radical contre le logiciel propriétaire que celui que demande Richard, au moins pour ce qui la concerne, elle, quand elle communique avec les entreprises ou quand elle communique avec les citoyens ou quand elle produit du logiciel, par exemple par le biais du financement de la recherche publique, là, elle peut imposer des choses et avoir un poids très fort sur le marché. Et encore une fois, si on regarde le budget total de la recherche et développement et de l'investissement informatique des administrations européennes, c'est gigantesque et c'est de taille à lutter contre les positions monopolistiques de Microsoft. Donc s'il y a vraiment une prise de position politique contre Microsoft, on peut estimer qu'on laisse le champ pour d'autres entreprises européennes qui vont faire du logiciel libre, qui vont contribuer par exemple au développement de OpenOffice et qui vont améliorer la capacité pour les citoyens d'interagir librement avec l'administration. Donc il faut pas... Alors il y a des prises de position un peu dans ce sens au niveau de la Commission, au niveau de certaines directions pour par exemple dans le domaine de la recherche qui est de plus en plus de logiciels libres développés sur les fonds publics, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin dans ce sens-là et aussi dans les administrations locales, les collectivités territoriales un peu partout en Europe. Donc c'est vraiment... effectivement encore un point sur lequel il faut une prise de responsabilité politique, mais évidemment c'est difficile. Par exemple, on peut constater en France que il y a le Futuroscope donc à Poitiers, qui est un parc dédié aux nouvelles technologies et à l'image, qui était en difficulté financière, et Microsoft a fait un don qui va permettre de le sauver financièrement. Et comme par hasard, il se trouve que le Premier ministre français est issu de cette région-là. Donc espérons que c'est pas une façon d'acheter quelque part la politique française en matière de nouvelles technologies. Et on a vu qu'en Inde, par exemple, Microsoft est allé donner 500 millions de dollars, je crois, à un État indien pour qu'il passe pas au logiciel libre. Sachant que d'autres États indiens, eux, ont dit non, on y est, on supprime tout Microsoft et on passe au libre. Donc là, il y a des affrontements importants.
Quand tu parles de ça, effectivement, il faut rappeler aussi que, par exemple, dans le cas des procès Microsoft aux États-Unis, l'une de leurs contraintes qui leur a été imposée, c'est de donner gratuitement des ordinateurs dans les écoles. Je veux dire, c'est un plaisir pour ce genre de société de pouvoir mettre leur système dès, je dirais, l'école primaire ou secondaire, etc., permettant effectivement, au fil des années, de construire, de continuer leur monopole. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose où il est très difficile de bouger parce que c'est un monopole de fait établi. Et donc, il faut que le pouvoir politique prenne ses responsabilités pour mettre fin à ce monopole et en tout cas permettre une concurrence loyale. Aujourd'hui, on est dans une concurrence déloyale. Donc c'est là, au minimum, il faut que les responsables politiques prennent effectivement leurs responsabilités à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que, comme le disait Marco, il y a beaucoup de lobbyistes au niveau de la Commission européenne qui font un travail très important, et quand on parlait des brevets ce matin, on constate effectivement que le pouvoir de nuisance de quelques lobbyistes pour quelques grandes compagnies, ben, finalement, est beaucoup plus important que l'intérêt général et l'intérêt aussi des PME-PMI. Donc c'est quelque chose... On est dans un rapport de force très disproportionné. Et c'est pour ça que les hommes politiques, ben, on a besoin d'eux, effectivement, pour rétablir, je dirais, un petit peu un équilibre. Toujours en faveur de l'intérêt général.
Donc là, vous demandez une sorte de régularisation de la part des États.
On demande une prise de conscience et une vraie volonté politique de permettre la concurrence, le libre accès à l'information. Quand on parle de logiciel propriétaire, on parle au logiciel libre, on parle aussi de format de données. Quand je parle de format de données, c'est le libre accès à l'information. C'est un petit peu comme si on vous donnait un livre avec une seule grille de lecture et qu'on ne vous permettait pas, par exemple, de le lire à l'envers ou de le lire en partant du milieu. C'est exactement la même chose. On vous donne un document, vous n'avez pas le choix du logiciel à utiliser pour le lire parce que ce format de document n'est pas documenté, n'est pas librement accessible. Alors qu'il en existe, par exemple... Imaginons aujourd'hui que le web se soit formé sur un format de document propriétaire, enfin fermé, non pas le HTML. Ben, on serait tous obligés d'utiliser des navigateurs d'une certaine compagnie, X. Je ne vais pas la nommer parce que ça pourrait être n'importe laquelle. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le HTML est quelque chose qui est documenté, qui est public, librement accessible. Donc, quelqu'un peut utiliser un navigateur qui est Internet Explorer, quelqu'un d'autre peut utiliser Opera, quelqu'un peut utiliser Galéon, etc. On a une liberté. Et cette liberté, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et effectivement, comme 99% des gens utilisent du doc sans une réflexion, maintenant c'est en train de changer, sans la réflexion de préalable de se dire, quand j'envoie un document doc à quelqu'un, est-ce qu'il va être capable de le lire ? Moi, je ne sais pas, quand j'envoie un document à quelqu'un, un papier, par exemple, si je donne ce papier à quelqu'un, je me dis, bon, il est en français ce papier, je vais réfléchir, est-ce que cette personne est capable de comprendre le français ? Si elle n'est pas capable de comprendre le français, je vais essayer de le traduire. Ben là, ces gens-là n'ont pas cette réflexe, quand ils envoient un document, ils se disent, bon, de toute façon, il pourra lire parce que moi, je peux le lire.
Ok. Est-ce qu'il y a des initiatives auprès de la communauté européenne, par exemple, Marco, qui visent à rendre une meilleure accessibilité par rapport au format des fichiers échangés? Donc, dans la communication entre la communauté européenne et les citoyens, par exemple?
Pas que j'en sache. Je sais qu'il y a comme Olivier le disait, il y a des expressions de volonté, des possibilités de financement, mais non, je crois que la réponse directe à ta question serait plutôt non.
Donc généralement, pour les documents officiels qu'ils ont distribués sur le site de la communauté européenne, elles se trouvent soit dans un format PDF ou soit dans un format Word, c'est ça?
Alors normalement la plupart des documents ils sont mis sur le web, ils sont mis sur le web, donc tu peux les lire avec
en HTML.
En HTML, tu peux avoir accès, etc. Je sais la situation au Parlement européen, par exemple nous en tant que députés européens, on a Microsoft Explorer pour comme browser et on a Word pour le traitement des textes. Ce qui fait que tout le monde utilise ça. Donc après, on n'y pense même pas que si je dois envoyer un file, un attaché, oui, je peux avoir le réflexe de le sauver comme texte, de façon que ce soit plus facilement lisible par tout le monde. Mais c'est une opération en plus. C'est une opération en plus que on ne peut pas se confier à la bonne volonté, à la bonne conscience des utilisateurs pour faire ça.
C'est d'ailleurs pour ça, et je suis tout à fait d'accord, c'est à l'utilisateur effectivement de penser à ça.
Voilà.
Il devrait le faire, parce que malheureusement la situation fait que il devrait le faire. Mais comme c'est pas l'utilisateur de le faire, je suis d'accord, lui à la limite, il utilise son logiciel. Il n'aurait pas à le faire si les formats étaient ouverts. C'est-à-dire que si c'était automatique que quand il sauvegarde un document, ce soit dans un format ouvert, qui soit compréhensible. Après, ça serait le problème du destinataire du message d'avoir un logiciel capable de lire. Notamment dans le cas du logiciel libre, ça serait le problème des développeurs du logiciel libre de produire un logiciel capable de lire le document. Mais à partir du moment où ce format de document n'est pas disponible, où le reverse engineering est plus ou moins interdit, eh ben, on est dans une situation où on ne peut pas lire le document. Donc je suis d'accord avec Marco, c'est pas à l'utilisateur d'avoir ce genre de réflexe normalement, mais pourtant la situation fait qu'il devrait l'avoir, et donc pour remédier à ça, la solution la plus simple, c'est d'imposer les formats documentés, ouverts, librement accessibles. Comme le fait, je dirais, le World Wide Web sur Internet, et c'est pour ça que ça marche.
J'ai pas, par exemple, le problème de ne plus pouvoir utiliser ma clé PGP sous GNUPG. Parce que le format de la clé n'est pas compatible. Donc l'algorithme utilisé n'est pas disponible dans GNUPG.
Voilà.
Donc c'est triste.
Oui, c'est... Alors il y a des problèmes techniques parfois, hein, mais je dirais que si on parle du point de vue politique sur ces histoires de réglementation, au niveau des normes établies par les normes européennes, c'est plus contraignant pour les entreprises. Si on parle de sécurité alimentaire, si on parle de sécurité électrique, ça coûte plus cher de faire des prises sur lesquelles on risque pas de s'électrocuter ou de produire avec des conditions d'hygiène. Donc pour des cas qui concernent notre vie, notre santé, on est capable de prendre des décisions et de proposer des obligations contraignantes pour les entreprises. Et c'est vrai que pour le cas de la liberté de s'exprimer et la liberté de communiquer, y compris de préserver des communications de façon confidentielle, par exemple, pour que des journalistes puissent recevoir des mails de façon anonyme de la part de gens qui vont dénoncer, qui sont des syndicalistes, par exemple, qui vont envoyer des mails à l'insu de leur direction. On a tout un tas de cas sur lesquels on peut trouver des justifications très importantes, mais comme c'est dans le domaine de l'informatique et que l'informatique, on confie ça un peu aux informaticiens, et puis c'est bien pratique d'oublier ça, on n'a pas encore eu la prise de conscience très générale de la part de l'ensemble des décideurs, que ce soit les entreprises vis-à-vis de leurs clients ou les politiques vis-à-vis des citoyens, qu'il faut protéger cette liberté d'expression et qu'il faut protéger les outils qui nous permettent d'en disposer. Et bon, mais ça c'est normal, on est dans une société qui n'a pas encore intégré tout ça parce que l'informatique, la bureautique, ça date d'il y a une vingtaine d'années.
Quand Richard Stallman nous a expliqué ce que c'est le logiciel libre tout à l'heure, il a dit que tout le monde peut intervenir sur le logiciel, l'améliorer, le changer et à nouveau continuer à le distribuer. Mais il y a depuis peut-être la mise en place des premiers systèmes d'exploitation fermés comme MS-DOS et puis la suite de Windows. Une séparation entre l'utilisateur et le programmeur vendeur du logiciel. Donc il n'y a plus ces réflexes chez l'utilisateur de penser d'éventuellement améliorer son programme.
C'est vrai que la plupart des gens n'ont pas forcément envie. Une entreprise, elle a une mission à accomplir. Les gens, ils sont pressés. Ils utilisent un outil. Bon, mais bien souvent, cet outil ne correspond pas aux besoins. Ils râlent. Mais bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas forcément le temps. Mais il y a des gens qui vont être capables de faire ça. Il y a tous les gens qui ont appris l'informatique ou tous les gens qui ont du temps et que ça intéresse. C'est comme les gens qui démontent des moteurs de voiture. Je veux dire, moi, par exemple, bon, j'ai pas de voiture, mais si j'en avais une, je passerais pas mon temps dans le moteur. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui sont passionnés par le tuning, ou il y a des gens qui veulent pouvoir la réparer eux-mêmes sans aller chez le garagiste. Donc c'est vrai que 99% des gens peut-être n'ont pas trop l'envie de programmer, mais par contre, ça peut être important pour certains. Et puis il y a aussi des gens, par exemple, pour qui c'est très important. Par exemple, les professeurs. Un professeur qui va faire un cours, par exemple, pour apprendre à lire dans une classe en utilisant des logiciels. S'il utilise des logiciels propriétaire qu'il a acheté, par exemple des CD-ROM, bien souvent c'est des choses très fermées, très très figées, et ça correspond à une vision pédagogique qui était celle du programmeur de ce logiciel, de l'éditeur. Et lui, peut-être dans sa classe, il se rend compte que c'est pas sa façon d'expliquer, et comme chaque professeur enseigne à sa façon, ben peut-être qu'il a envie de changer ça. Et on se rend compte que quand on fait des expérimentations actuellement avec des projets comme Abuledu, qui met des ordinateurs avec des logiciels libres dans les classes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de professeurs qui se disent « mais j'ai envie de changer la couleur, le texte, la taille du programme ». Et donc ils se mettent à programmer, parce que pour eux c'est important. Ça fait partie de leur métier. Alors, ils n'étaient pas programmeurs, mais si le langage est assez simple et tout ça, ils vont s'y mettre.
Donc il ne faut pas avoir peur de franchir ces caps et d'effacer cette différence entre le vendeur,
non, parce que les langages sont de plus en plus faciles à apprendre, les outils sont de plus en plus conviviaux. Alors c'est vrai que les gens qui ne veulent pas s'y intéresser, il ne faut pas les obliger à programmer, mais ce n'est pas le but. Ceux qui veulent utiliser du logiciel libre, c'est-à-dire se garder la liberté un jour de pouvoir faire les modifications sur le logiciel ou bien de pouvoir sous-traiter ça à une entreprise spécialisée, eux, ils ont qu'à acheter du logiciel libre dans le commerce, parce qu'il y a des sociétés, comme on disait avec les distributions, qui vendent ce logiciel libre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce logiciel libre, 10 ans plus tard, peut-être, ils auront le besoin, et là, il y aura quelqu'un qui pourra le faire. Donc c'est une garantie, c'est une question d'assurance, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas tous besoin de prendre des assurances quand on fait un voyage, parce qu'on n'est pas sûr qu'on va l'annuler, mais on la prend quand même, parce que dans le domaine du logiciel, c'est un peu pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des modifications, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas grave d'utiliser un logiciel libre. Mais dans 5 ans, on aura peut-être besoin de récupérer les fichiers qu'on avait enregistrés, ou on trouve que ça ne correspond plus aux besoins. On a vu que sur le bug de l'an 2000, il y avait eu des problèmes parce que les entreprises avaient utilisé des logiciels qui ne marchaient plus un beau jour. Et puis on avait même perdu le fournisseur parce qu'il avait fait faillite, etc. Si on n'avait pas le code source de ces logiciels, c'était foutu, il fallait tout changer. Si c'était des logiciels dont on avait le code source, on pouvait toujours appeler une société de service, Unisys, Capgemini, que sais-je, pour dire, allez, corrigez-moi le problème de l'an 2000.
Il faut voir que globalement, il y a quand même beaucoup de réticences par rapport à l'informatique, mais à partir du moment où on comprend l'intérêt social de l'outil informatique, c'est-à-dire qu'on dépasse simplement l'outil, on commence à s'y intéresser. Et je fais un parallèle, par exemple, avec Internet. Au démarrage de la démocratisation d'Internet, beaucoup de gens ne voyaient pas forcément à quoi ça servait. En plus, il y avait des rumeurs qui... les journaux mettaient beaucoup l'accent sur les sites porno, etc. Puis il y a des gens qui se sont rendus compte qu'Internet, c'est socialement, c'était un truc super bien, c'est que ça abolissait les barrières entre un producteur d'information et le public. C'était la première fois, en fait, parce que quand on veut, par exemple, publier un article dans la presse, on passe le barrage du rédacteur en chef. Mais sur Internet, tout d'un coup, on pouvait publier un article, alors, sans savoir si on allait être lu ou pas. Mais les gens se sont dit, on peut publier des idées, échanger des idées, et on va peut-être être lu. Et là, ils ont vu qu'un outil technique leur servait d'un côté social. C'est pareil dans l'informatique, je dirais, de tous les jours. C'est qu'à partir du moment où on comprend l'intérêt social qu'il y a dans l'outil informatique, on oublie les réticences, les barrières psychologiques et elles tombent. Et pour moi, c'est la même chose. C'est que ce qu'a permis Internet pour les gens qui voulaient faire de la publication, je dirais, sans barrière, le logiciel libre le fait par rapport au logiciel propriétaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est de comprendre que l'informatique, c'est pas que de la technique. C'est à l'importance sociale capitale. Et de plus en plus, parce que très clairement aujourd'hui, qui contrôle l'informatique contrôle l'information, et donc contrôle les esprits, contrôle le public.
Donc il y avait un cas relativement intéressant il y a quelques semaines ici en Belgique. C'était un CPS, donc un centre d'aide sociale, donc une institution publique, qui ont perdu leur fournisseur de logiciels pour la gestion de leur comptabilité. C'était Avance. Et donc ils commençaient, ils n'avaient plus accès au code source, ils savaient plus utiliser leur comptabilité, et ils se sont remis à écrire leur comptabilité à la main. Donc ça c'est vraiment un cas très 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 flagrant de non accès au code source.
Et ça arrive très souvent quand on parle des sociétés de services, par exemple. Il faut savoir qu'une grande partie du logiciel qui est produit ne concerne pas les logiciels qui sont vendus dans le commerce, par exemple Word ou autre. Ça concerne souvent du logiciel à façon, fait pour des entreprises, des PME, PMI, par des sociétés de services. Et on constate que la seule garantie que ces PME, PMI ont de la pérennité de leur système d'information, c'est pas simplement de se faire développer le logiciel, c'est de demander les sources du logiciel. Pour être sûr que si demain la société de services périclite, ou change d'opinion et ne veut plus maintenir le logiciel, elle puisse changer de société de service. Et c'est là où on voit que c'est fondamental d'avoir l'accès au code source, parce que si on a un logiciel qui est que sous sa forme binaire, s'il n'est plus maintenu, on le prend, on le jette à la poubelle. Avec le code source, effectivement, soit un informaticien en interne pourra le modifier et l'adapter, soit on pourra faire appel à une autre société de service. Le logiciel libre, simplement, a, je dirais, globalisé ce système.
Donc tout à l'heure, on parlait d'Antanet, de ses réseaux de communication à échelle globale. Il y a aussi... On parlait de fichiers, de formats. Et quelle est la position de la communauté européenne par rapport à des systèmes de cryptographie à clé publique, de PGP, de GNUPG, quelle est la
Ouais. Bon, pour l'instant, ça c'est confié aux législations nationales, donc il n'y a pas une des prohibitions particulières sur ça, que j'en sache. Je ne sais pas si la chose peut être en train de changer par rapport à l'11 septembre et à la lutte contre le terrorisme. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a, par exemple, un document de la présidence de l'Union européenne, la présidence danoise, qui soulève le problème. C'est pas encore de façon législative, mais en disant, on doit considérer le fait que la cryptographie peut être utilisée par des criminels. Par des terroristes, etc. Alors là, ça nous ouvre un problème énorme, très important. C'est-à-dire le rapport entre technologie, criminalité, technologie et démocratie. Même sur des autres champs, comme le champ de la privacy. Alors, je crois que on se trouve devant l'illusion de pouvoir obtenir pour nos sociétés une sécurité totale avec les moyens, les recours technologiques. Par exemple, il est à l'étude maintenant un projet aux États-Unis qui s'appelle Total Information Awareness, qui est un système qui serait en mesure de collecter, analyser, combiner tous les données personnelles d'une personne, de toutes les personnes. C'est un système de surveillance généralisé qui pourrait coupler les données d'utilisation du carte de crédit avec les données d'utilisation de votre téléphone mobile, avec les données de l'Internet, et faire des combinations de ces données pour voir si votre comportement peut être suspect, disons.
Ça fait peur.
L'Union européenne, par exemple, la directive dont j'étais rapporteur sur la privacy, sur les communications électroniques, j'ai perdu sur un point assez important, comme quoi l'Union européenne autorise les États membres à faire la soi-disant data retention, donc de conservation de toutes les données de trafic, les numéros que vous avez appelés avec votre mobile ou les sites web que vous avez visités ou le parcours de download, de upload des files, etc. Tout ça, les États ont la possibilité de obliger les fournisseurs d'accès Internet ou les fournisseurs d'accès téléphonique à conserver ça de façon que ça peut être utilisé pour des enquêtes par les services secrets, le juge, la police, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans ça? On peut même penser, bah, pourquoi pas? On augmente les techniques pour contrôler la criminalité. Le problème, c'est que je crois que si la criminalité organisée doit communiquer, ne va pas le faire comme ça, avec un téléphone ouvert, des standards ouverts, des emails. Ils vont le faire avec des systèmes sûrs.
Donc si on parle de cryptographie à clé publique, là maintenant, on parle surtout du volet de la privacy, mais il y a aussi le volet de la sécurité et le volet de l'authentification. Donc ces deux volets qu'ils ont surtout utilisés par les systèmes bancaires sur Internet, faire son télébanking sur ouais. Internet ou consulter un site qui vend quelque chose, donc un magasin virtuel. Donc est-ce qu'il y a une différenciation qui va être faite maintenant entre le droit de pouvoir faire quelque chose de sûr sur Internet, et mais de ne pas faire quelque chose de privé, donc
Oui, voilà, théoriquement oui, il y a une différence très importante qui est reconnue par la loi, mais des problèmes se soulèvent, par exemple, vis-à-vis à des standards privés qui sont insérés automatiquement dans nos ordinateurs. Il y a une plateforme qui est agréée entre des entreprises, ce n'est pas une loi, mais cette plateforme permet l'identification de l'utilisateur et des programmes qu'il utilise. Donc, en théorie, même si ça, il serait interdit d'utiliser cette possibilité, mais il y aurait quand même la possibilité de récupérer tous les parcours d'utilisation et d'identifier l'utilisateur. Alors, on peut toujours dire, oui, c'est interdit, donc c'est interdit. Mais c'est vrai aussi que c'est interdit, mais c'est pas contrôlable. Une fois qu'un système pareil est mis en place, c'est presque impossible pour l'État ou pour l'utilisateur d'avoir l'assurance qu'il n'y a pas des abus, qu'il n'y a pas une utilisation abusive des données qui sont quand même créées. Alors le problème, ça serait de résoudre à la racine ça et de ne pas autoriser la création de ces données. En théorie, même sur la question que je te disais de la data retention, la police, elle n'aurait pas le droit d'utiliser ces données. Mais on sait très bien que les services secrets, il y a toujours des procédures spéciales qui peuvent être mises en place. Alors le problème, ça serait de ne pas créer ces immenses databases pour lesquelles des abus peuvent
d'autant plus que
se produire.
On n'est pas sûr que ça ait vraiment une utilité.
Ouais, voilà.
Parce que encore une fois, à qui profite le crime? Enfin, c'est ceux qui prétendent défendre l'anticriminalité. C'est le lobby de militaro-industriel qui a besoin de ces technologies pour faire financer sa recherche et développement. Enfin, si je veux être un peu critique, un peu caricatural.
Excusez-moi si je t'interromps, mais par exemple, le 11 septembre, les données étaient là. Ils avaient on les a trouvées après 2-3 mois, mais ils avaient les coups de téléphone, ils avaient les informations. Ce qui manquait, c'était le human intelligence, la connaissance sur le terrain de ce qui s'est passé. Alors, mon objection, qui était l'objection au Parlement européen, c'était, mais si on augmente, on multiplie les données à disposition, donc avec une surveillance généralisée sur tous les citoyens, est-ce qu'on ne va pas peut-être diminuer à la fois que à la place qu'augmenter, on va diminuer notre capacité de combattre les crimes. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être investir les ressources publiques sur des systèmes qui sont en mesure de faire le contraire, de agresser avec l'information, la connaissance, la démocratie, etc., les pays, les régions du monde qui ne l'ont pas? Il y a des systèmes, des softwares qui sont faits expressément pour surmonter la censure, comme en Chine, la censure de moteurs de recherche, pour assurer la confidentialité de la communication, contre la possibilité de l'État et des États dictatoriels d'avoir accès à les emails personnels, etc. Alors, je crois que, avec le Parti radical, on s'engage à ça, à incentiver des systèmes qui sont en mesure de amener l'information et la connaissance où l'information et la connaissance sont interdites, plutôt que de créer des systèmes de monitorage, de surveillance généralisée qui ne vont pas être efficaces dans la lutte contre le crime.
Et qui en plus sont très dangereux parce que bon, on se souvient un peu de l'exploitation qui a pu être faite d'un certain nombre de fichiers pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Bien entendu, le but c'est de lutter contre le terrorisme, mais c'est quand même disproportionné. Je veux dire, personne n'accepte qu'il y ait un flic devant chaque porte et qu'on puisse pas sortir de chez soi sans que quelqu'un soit au courant, qu'on puisse pas prendre le métro sans que quelqu'un soit au courant, etc. Dans la vraie vie, mais sur Internet, ça passe. Le problème, c'est l'utilisation abusive qui peut être faite de tout ça. C'est quand même un danger tellement fort par rapport à peut-être le fait de pouvoir choper un ou deux terroristes potentiels qu'on attraperait de toute façon avec les méthodes actuelles et avec la loi actuelle. Donc il y a un rapport de poids et de mesure là. C'est comme dans l'histoire du brevet dont on parlait tout au début de cette émission. Est-ce que le contrat social, est-ce que l'intérêt est tellement fort de mettre un flic derrière chaque personne pour pouvoir attraper les 0,1% de délinquants qu'il y a? Je pense que la plupart des gens sont pas d'accord pour qu'on les espionne de façon systématique, même si y a des gens qui sont délinquants. Aux États-Unis, par exemple, les Américains, même s'ils valident ce genre de loi sur l'Internet, ils sont contre le fait d'interdire les armes, bien qu'il y ait des gens qui se tirent dessus. Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie du port d'armes, comme c'est le cas aux États-Unis, mais ils n'ont pas interdit les armes, bien qu'il y ait des tueries régulièrement, alors que sur l'Internet, ils vont interdire toute liberté au prétexte que certains pourraient en tirer profit pour faire des actes délictueux. Donc c'est dans la vraie vie, il y a des choses qui nous semblent aberrantes, mais sur Internet, ça passe. Et le problème, c'est que là, vraiment, notre vie privée, elle est réduite à néant.
Le monde du logiciel libre, c'est bien introduit dans le domaine des logiciels à cryptographie. Donc il y a des projets comme OpenSSL, IPsec, GNU.
Ouais, la technologie, elle existe et effectivement, il y a des gens qui vont développer des parades, mais le problème, c'est quand même quand un développeur indépendant va être mis en prison parce que il va faire ça. Bon, quand on est gamin, qu'on est jeune, qu'on a 15 ans, qu'on développe du logiciel, ça va bien. Mais quand on commence à avoir une famille, des enfants, un métier, etc., la menace est bien réelle. Il y a des gens qui sont quand même allés en prison pour avoir développé certains logiciels. C'est quand même assez choquant, quoi. Et donc c'est vrai qu'on trouvera peut-être des parades techniques à cette espèce de Big Brother là qui est déjà là, qui est même pire que ce qu'avait imaginé Orwell. Et c'est vrai que des fois les parades sont aussi peut-être assez délicates parce que les Trusted Computing Platforms sont assez proches de certains besoins du logiciel libre aussi parfois. Donc c'est des choses assez compliquées au niveau de la technique sur lesquelles on peut s'en sortir. Mais encore une fois, faut revenir au fondement, faut revenir à des principes simples de bon sens. Est-ce qu'on accepte un flicage généralisé, tout comme est-ce qu'on accepte un monopole systématique sur les idées? Je crois qu'il faut garder un peu une vision raisonnable dans tout ça.
La cryptographie forte a été interdite pendant un moment en France, c'est ça?
Oui. Elle est toujours interdite. Hein,
elle est toujours interdite. Qu'est-ce que ça signifie pour...
Mais ce qui est... Tout à l'heure, on parlait ce qui est assez marrant, c'est qu'on note souvent que dès qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre aux gens de s'exprimer en toute liberté, en toute confiance, en toute confidentialité, ou d'exprimer des opinions, souvent on nous ressort l'argument, mais attention, les réseaux criminels vont les utiliser, les pédophiles vont l'utiliser. On l'a eu au début d'Internet, par exemple. Internet, c'était les pédophiles vont l'utiliser pour mettre des photos d'enfants, alors que pourtant ils utilisent la presse depuis très longtemps. On trouve à Paris par exemple des librairies spécialisées dans ce domaine-là, et que ça ne dérange pas apparemment les flics. La cryptographie, c'est pareil, ça va être utilisé par les réseaux terroristes ou pour les trafiquants de drogue pour s'échanger des messages. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont jamais attendu que la techno existe, ou en tout cas soit accessible au plus grand nombre pour l'utiliser. C'est un peu comme les militaires. Les militaires, ça fait très longtemps qu'ils maîtrisent un certain nombre de technologies, qui commence simplement à arriver dans le public. Donc à partir du moment où on commence à diaboliser quelque chose, moi j'ai tendance à me méfier en me disant, bon, quelque part on veut restreindre nos libertés. Et fondamentalement, l'intérêt aujourd'hui de l'informatique, c'est pas effectivement de permettre à des monopoles de se créer, c'est pas de permettre de réduire les libertés, c'est de permettre aux gens effectivement d'exprimer leurs libertés. Et c'est un peu, je fais le même parallèle avec les lois aujourd'hui qui existent en France, où quelque part, l'argent public est dépensé pour mettre des flics à chaque coin de rue dans les cités, etc., alors qu'il serait beaucoup mieux dépensé pour attaquer le mal à la racine, c'est-à-dire mettre beaucoup plus de profs dans les écoles, permettre à des enfants de ne pas être 40 en classe, mais d'être 20 en classe. Donc aujourd'hui, je pense qu'on dépense beaucoup d'argent, effectivement, pour fliquer, je dirais, Internet et les nouvelles technologies, alors que cet argent serait très bien, beaucoup mieux dépensé pour simplement éduquer les gens et éduquer les pays qui en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent. Donc il y a une disproportion qui est faite entre finalement les arguments qui sont avancés, qui sont sur le papier très beaux, mais qui en fait ne valent rien. Et ça, c'est vrai dans la vie privée, enfin dans la vie réelle, je dirais, et sur Internet. Simplement, effectivement, dans la vie réelle, ben, comme le dit Olivier, si on voyait des flics à chaque fois qu'on a, on fait un pas dans la rue, on serait choqué. Même moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai été il y a une semaine dans un cabinet d'avocat pour rencontrer un avocat. On m'a demandé ma carte d'identité, etc. J'étais profondément choqué parce que je me disais, mais pourquoi je vais donner ma carte d'identité dans un lieu qui est finalement ben, sur Internet, ça choque pas les gens.
Voilà, donc merci beaucoup d'être présent dans le studio. Je rappelle, c'était donc Olivier Berger de l'association April, donc Free Software Foundation Europe. Il y avait Frédéric Couchet, aussi de la Free Software Foundation Europe. Marco Capato, député européen, Parti Radical Transnational.
Oui, merci à Radio Campus.
Voilà, il y avait dans le studio, il y avait Pierre Diaga de Radio Campus, Danny DeVos du collectif et Jens Ingo-Brodesser, donc moi-même, au microphone ici. Je rappelle encore l'événement de ce soir qui aura lieu donc à partir de 18h au Cinéma Nova, 3 rue Arenberg à 1000 Bruxelles, et ça nous permettrait éventuellement, donc vous pouvez tous venir, de discuter plus sur la société de connaissances ouverte et participative. Donc avec Richard Stallman de la Free Software Foundation, Emma Kos de ACT UP en France et Aris Papa Theodorou de Zamistat Net. Aussi vendredi, pour en profiter, il y a une journée dans le cadre de Bunker Souple qui sera consacrée entièrement au logiciel libre, donc une journée de workshop qui débutera à 2h rue de Chartreux à 1000 Bruxelles. Voilà, merci beaucoup.